Bien, j'ai la contagion de la peur comme production d'ambiance au Brésil. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi je choisis d'abord l'association entre la contagion et la peur. Et ensuite, l'idée d'une ambiance définie par rapport à un pays, à une culture précise. Donc je commence tout d'abord par là. C'est-à-dire, je suis tentée de dire... de poser comme question qu'est-ce que ça pourrait être une ambiance brésilienne ou des ambiances brésiliennes. Bien, ça, j'ai évidemment fait un choix de m'exprimer comme ça, dans le sens où si je peux parler d'une ambiance brésilienne ou des ambiances brésiliennes, je passe forcément par les domaines du stéréotype, parce qu'on est dans un choix qui est trop général. Donc, si je fais ces choix-là, ce n'est pas par hasard. À mon sens, ça peut nous apporter quelque chose d'intéressant. Et ça peut aussi nous poser des problèmes, puisque bon, les stéréotypes, ils peuvent toujours fonctionner comme un piège. Donc, je vais essayer d'évoquer d'un côté l'avantage que ça peut nous apporter, et de l'autre côté, les pièges que ça peut représenter aussi. Donc, si je pense en termes d'ambiance brésilienne, enfin, au genre des stéréotypes qui peuvent être évoqués quand je m'exprime comme ça, tout de suite, on pense à de manifestations culturelles comme les carnavals, la samba, la capoeira, les foot, etc. Enfin, on est tous tentés d'évoquer ces genres de manifestations culturelles qui sont assez puissantes au niveau des ambiances qu'elles peuvent promouvoir. Et donc, du coup, on est confronté à chaque fois à, comme j'avais dit, des stéréotypes qui semblent avoir une base commune. Donc c'est ça peut-être l'avantage que les stéréotypes peuvent nous apporter dans un genre d'abordage comme ça, c'est que même si ils figent des images précises, et ça peut être discutable évidemment, mais dans sa façon de figer, bon, tout d'abord, en stéréotype, il peut figer des éléments, mais il ne peut pas en créer des images. Il parle de choses qui se passent, qui ont une existence réelle, des manifestations culturelles, en l'occurrence, qui ont une existence réelle et qui sont assez puissantes. Donc, dans les genres de manifestations que j'évoque ici, les carnavals, la samba, les foot, la capoeira, on pourrait peut-être en citer d'autres, je ne vais pas me prolonger dans ce sens-là, mais on peut penser qu'il y a toujours un élément qui se répète dans ces genres de manifestations. C'est l'idée d'une masse, tout d'abord, ce sont de manifestations culturelles des masses. Et ensuite, je peux aussi dire que ce n'est pas n'importe quelle masse, mais il s'agit d'une masse en mouvement, d'une masse, dans les termes de Elias Canetti, une masse rythmique, une masse dotée de mouvement. Et à chaque fois qu'on va penser au genre de stéréotype de la culture brésilienne, on passe par ces genres peu importe si on parle du carnaval ou d'autres choses, mais on tombe assez souvent sur des images qui évoquent cette masse en mouvement, cette masse qui bouge. Bien, ces genres je ne sais pas dans quelle mesure vous avez en tête, mais j'imagine que je parle là de vraiment des images qui sont assez répandues. Donc, si on a à peu près en tête la vision du défilé du carnaval, par exemple, on peut bien sentir comment il s'agit d'un genre de manifestation culturelle qui favorise ou même qui demande une forme de contagion. Ces genres de manifestations ne peuvent pas s'accomplir sans l'intervention d'une forme de contagion. Il y a même une chanson assez connue au Brésil qui est répétée à chaque année depuis longtemps, qui commence en disant exactement qu'il n'y a que les morts qui ne viennent pas faire la fête. Donc ça montre bien comment il s'agit d'un genre de manifestation qui suppose la notion d'une contagion. Jusqu'à là, je vous parle donc d'une possible ambiance brésilienne ou des ambiances brésiliennes à partir d'un stéréotype, en acceptant les risques de travailler sur la pensée du stéréotype. Là, j'aimerais bien évoquer aussi les risques que cela peut nous poser. Donc, s'il est vrai que l'idée d'un mouvement, d'une masse en mouvement, elle est assez récurrente pour représenter la culture brésilienne, les risques que cet stéréotype peut nous faire courir, c'est que c'est l'interprétation qu'on peut donner à ces mouvements-là. Donc, surtout par rapport à l'image du carnaval, on a la tendance à penser tout d'abord à la fête, à la jouissance, à la joie, à la gaieté. On a une association presque immédiate entre cette masse en mouvement et l'idée d'une joie qui est en permanence, on va dire. Et là, c'est là où on a peut-être intérêt à prendre un peu de recul pour se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement cette masse? Est-ce qu'elle est tous les temps l'expression d'une joie, d'une gaieté? Donc, moi, mon hypothèse, elle reprend donc l'idée d'un stéréotype. Ça veut dire que pourquoi, par exemple, le carnaval est devenu l'image la plus expressive du Brésil, alors que bon, le carnaval, c'est quand même une manifestation culturelle, c'est un genre qui existe ailleurs, évidemment, et qui semble avoir toujours une même base. Ça veut dire que quand on est dans les registres du carnaval, on est dans les registres de la parodie. On a affaire à une parodie de la société telle qu'on elle est organisée. Alors, mon hypothèse, c'est que derrière la joie qu'on peut percevoir dans les carnavals brésiliens, il y a une espèce de jubilation de la peur, une espèce d'angoisse, des manifestations d'angoisse, qui est lié à cette puissance du carnaval en tant que parodie. Autrement dit, on pourrait dire qu'au Brésil, à part les carnavals qui durent 4 ou 5 jours, on vit peut-être dans une sorte de carnaval en permanence, dans le sens où on vit une parodie, où on vit... les rôles sociaux, ils sont flous. Donc, c'est comme si on vivait en permanence dans cette sorte de parodie, dans laquelle ce qui est officiel devient vite fait officieux, ou ce qui est, font les rôles, ils ne sont pas vraiment assurés. Bon, on a l'image classique au Brésil du policier qui est à la fois partie de la mafia. Il est à la fois en marginal. Donc ça, c'est une image classique. On ne sait jamais si on est à faire vraiment la loi ou la marginalité. Pour faire une évocation d'une autre situation qui soit un peu moins joyeuse peut-être que les carnavals, mais qui me semble avoir tout d'abord le même genre de configuration plastique. Ça veut dire on a une image qui ressemble en quelque sorte à celle du défilé du carnaval, et qui à la fois relève plutôt de la peur que de la joie. Je veux vous raconter un genre de manifestation culturelle, ou plutôt un genre de manifestation des foules dans l'espace urbain, qui peut peut-être nous apporter des éléments de comparaison, enfin, qui nous permet de mettre en écho les carnavals, ou la joie, ou les masses en mouvement, et l'aspect de la peur, de la jubilation de la peur, comme je viens de dire. Donc, je vais évoquer un événement qui a commencé à avoir lieu au Brésil à partir des années 90. Bon, on a un terme pour ça en portugais, c'est pas très important. Je sais pas trop si c'est possible de les traduire, mais c'est pas très important. Parce que il s'agissait donc des bandes de jeunes issus des banlieues, de bidonvilles. Au départ, c'était un genre de manifestation qui a démarré à Rio, mais après, ça a pris une ampleur assez importante, et ça se passe dans n'importe quelle ville, même dans des villes plus petites que Rio. Et jusqu'à présent, c'est quelque chose qui n'a jamais arrêté de se reproduire. Donc, on a des bandes de jeunes, mais des bandes assez importantes. Parfois, on a environ 1000 personnes qui arrivent des quartiers défavorisés. Et leur technique consiste en passer, par exemple, au départ, c'était dans les plages. Aujourd'hui, on peut voir les mêmes genres de scènes dans les grandes surfaces ou dans des avenues, dans les commerces, enfin. Mais au départ, c'était dans les plages. Donc, ces jeunes-là, ils arrivaient en centaines. Ils croisaient, par exemple, une plage en courant. Et lorsqu'ils faisaient ce genre de mouvement, les gens qui étaient dans les plages pour s'amuser, pour les touristes, les citoyens en général, on a plus la possibilité de savoir qui est-ce qui fait partie de la bande et qui est-ce qui est là en train de se faire attaquer. Donc, quand la police arrive, l'image qu'elle a, c'est à peu près cette image de la foule en mouvement qu'on voit dans les carnavals, c'est-à-dire une sorte de défilé qui arrive sur une plage et qui fait un parcours en courant. Et du coup, justement, le fait qu'on soit plus en mesure de savoir qui est les citoyens, qui est les marginales, par exemple, ça rend assez difficile l'action de l'intervention de la police, mais même des gens qui sont concernés. Donc si, disons qu'on se trouve dans cette plage, qu'on vient se baigner en beau jour, et on est là, on sait plus la personne qui est à côté de nous. Elle vient vers nous pour nous protéger ou pour nous attaquer. Donc c'est une image, à mon sens, qui relève à la fois de la peur, de la panique, c'est une situation de panique urbaine, mais ça marche bien parce qu'on a, disons, un savoir-faire de ces genres de masses en mouvement qui sait très bien comment faire pour se déplacer et en plus qui profite de cette confusion. À partir du moment où on ne sait plus où on est, si on est des citoyens, si on est de marginaux, ben là, ça a l'air de bien marcher, exactement à cause de cette confusion qui s'installe. Oui, pour voler des objets, de l'argent. Bon, ça, à partir de ces genres de manifestations, il y en a eu d'autres. Là, on a, dans ces genres de situations, on a quand même, à la limite, des classes sociales qui se confrontent. Il y a les pauvres, les gens qui viennent de bidonville et qui attaquent les riches, pas la classe moyenne, enfin, mais il y a un conflit des classes là-dedans. À partir de ça a démarré, comme je l'ai dit, dans les années 90, mais c'est devenu une technique. Et du coup, il y a d'autres manifestations qui relèvent pas du tout d'une différence des classes sociales, mais qui reproduisent les mêmes genres de stratégies. Donc, juste pour finir, je ne sais pas si... Il y a une situation qui a repris la même stratégie. Ce sont de jeunes, surtout, aussi à Rio, ça a commencé aussi à Rio, de jeunes qui voulaient fumer de l'herbe, ce qui est interdit au Brésil. On n'a pas les droits de porter de la drogue ou de fumer. Enfin, on n'a pas les droits de faire ça. Donc, les jeunes, ils se réfugiaient dans les plages parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient à l'abri de la police plutôt que de faire ça en ville. Au bout d'un moment, la police a réalisé que ça se passait comme ça, qu'il y avait pas mal de jeunes qui se réfugiaient dans les plages pour consommer de la drogue. Donc, ils ont commencé à venir chercher les jeunes dans les plages. Et ils ont institué entre eux, et là, comme je l'avais dit, c'est plus du tout un conflit des classes. Il y a plusieurs classes sociales mélangées là-dedans. Ils ont institué entre eux d'une façon complice et en même temps, on ne sait pas trop comment ça se produit à l'origine. Mais ils ont commencé à aller à la plage avec un sifflet. Et à chaque fois que la police arrivait, ils commençaient à siffler pour prévenir les gens qui étaient quelques mètres après que la police était arrivée. Donc, on n'a pas les droits de porter de la drogue, mais on a les droits de porter un sifflet. Et les policiers, ils ne peuvent rien faire parce que, bon, normalement, ça viole aucune loi. Donc, voilà, mon idée, c'était de comme on n'a pas beaucoup de temps là, mais au moins de faire l'évocation et les liens entre cette image de masse en mouvement qui, a priori, semble être plutôt liée à la fête, à la joie, avec un autre aspect d'une formation sociale, d'un mécanisme social même, qui relève non pas de la joie, mais plutôt de la peur, et que ça, à fond, ces éléments-là, ils se rejoignent dans certaines manifestations culturelles. Voilà, c'est...
C'est très... Ça fresque, c'est déjà...